Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby que vous retrouvez chaque semaine. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, l'inamovible troisième ligne de l'équipe, Imanol Arinardoki. Hola muchacho.
Hola, ¿qué tal? Bien.
Bien, bien et tout.
Si, muy bien.
On en parle parce qu'Imanol est parti de l'autre côté de l'Atlantique pour quelques jours de vacances bien mérités. Pour l'accompagner, les journalistes du Midi Olympique, eux, sont sur le pont, Arnaud Bordelais et Simon Valzer. Salut les gars.
Ça, salut. C'est sûr, nous, on n'est pas en vacances en ce moment. Hein. On va en parler. Hein, Imanol?
Exactement. Au programme de ce numéro, nous reviendrons évidemment sur le jugement rendu en première instance dans l'affaire Laporte-Altrade, les prises de position des uns et des autres. Récemment, c'est la Ligue nationale de rugby qui vient également de prendre position. Qu'est-ce qui va se passer désormais? On en discute. On évoquera ensuite la Coupe d'Europe. Toulouse et La Rochelle ont bien réussi leur entrée dans cette compétition. Est-ce qu'ils sont toujours les favoris? Et enfin, nous évoquerons le Boxing Day, les joueurs de rugby du top 14 qui joueront le 24 décembre, également le 31. Pour, contre, on veut votre avis. Si vous voulez le connaître, restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater. Abonnez-vous également à ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Acast. Vous recevrez ainsi les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Allez, Arrêt Buffet, c'est parti. Alors le verdict a été rendu dans l'affaire Laporte-Altrade. De nombreuses réactions ont fait suite à la condamnation en première instance des protagonistes de l'affaire. Ce jeudi, c'est la Ligue nationale de rugby qui a elle aussi demandé l'organisation de nouvelles élections à la tête de la fédération. Je me souviens qu'il y a eu la ministre des Sports et des Jeux Olympiques qui avait également demandé que des changements s'opèrent à la tête de la fédération. Alors messieurs, on aimerait un peu votre avis. Bernard Laporte, est-il dans une impasse? Doit-il démissionner? Ou au contraire, le fait qu'il ait fait appel de sa condamnation l'autorise finalement à rester à son poste?
Bah, allez Arnaud. Je vais y aller, j'étais mardi voilà. Au procès. Il y a le droit et il y a la morale. Il y a le droit. Aujourd'hui, effectivement, Bernard Laporte a pleinement le droit, dans la mesure où il n'a pas été prononcé de mesures exécutoires par la présidente du tribunal de Paris. Il est en pleine capacité de poursuivre sa mission à la tête de la Fédération de rugby. Ensuite, effectivement, il y a entre guillemets la morale, la condamnation, elle est quand même lourde. Il a été reconnu coupable, hein, le président de la Fédération française de rugby, de corruption passive, de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêt, d'abus de biens sociaux et de biens et de, oui voilà de d'abus de biens sociaux. Donc c'est quand même relativement lourd, c'est du jamais vu, hein, dans l'histoire de la Fédération française de rugby. Donc effectivement, évidemment, l'opposition a appelé à son départ, non pas forcément à son départ, mais en tout cas à la démission du comité directeur. Alors tout ça est un petit peu évidemment technique. Le comité directeur est composé de 40 membres, dont une large majorité acquise évidemment à la cause de Bernard Laporte. 29. Et l'opposition. 20, un peu plus, puisqu'il y en a deux qui ont démissionné, José Machado et Pascal Papé depuis. Donc, tout est très complexe. On ne va pas abreuver nos auditeurs de chiffres, mais tout est très complexe par rapport à ça. Mais l'opposition appelle donc à une démission du comité directeur pour accélérer le processus électoral et aller vers de nouvelles élections anticipées du comité directeur qui ensuite lui-même choisira et élira le président de la Fédération française de rugby. Tu l'as dit Adrien, il y a le ministère des Sports également par la voix de sa ministre, hein, Amélie Oudéa-Castéra, qui n'a pas non plus appelé à la démission de Bernard Laporte, qui a appelé à un nouveau temps démocratique. Voilà. La nuance, elle est importante. Elle veut que on en reparte par les unes, ce qui n'empêche pas Bernard Laporte demain, éventuellement, de se représenter face au club. Ce qui, d'ailleurs, et Florian Legris le dit assez ouvertement, si demain il y a une nouvelle élection, on ne sait pas si les clubs choisiront ou pas d'un changement ou si ils redonneront leur confiance à Bernard Laporte. Donc voilà, il y a le droit et la morale. Est-ce que Bernard Laporte a envie de partir? Il est parti de World Rugby. Est-ce qu'il va le faire au sein de la Fédération française de rugby? Aujourd'hui, personne n'a la réponse. En tout cas, l'étau s'est resserré, hein, autour de sa personne. D'autant plus qu'il y a également aussi le comité d'éthique, hein, qui peut se saisir du dossier et demander au conseil de discipline de la Fédération française de rugby de révoquer l'intégralité du comité directeur, y compris le président. L'histoire n'est pas terminée, ça va encore bouger dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que pour l'heure, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette affaire et assez peu de rugby.
Simon, vous avez interrogé les clubs, je crois, vendredi dans le Midi Olympique. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette affaire-là? Est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût? On a envie d'acheter le Middle demain, mais on a envie d'en savoir un petit peu, dis-nous.
Voilà, oui, c'est ça. On a décidé en comité de rédaction en début de semaine de lancer un grand sondage auprès des clubs de rugby amateurs. Donc, on a composé, je rappelle qu'il y a un peu plus de 1800 clubs de mémoire de rugby amateur. On a décidé de composer un panel qui représente un petit peu moins de 10%. On a soigneusement composé ce panel en appelant absolument toutes les régions, de la Vendée à la Corse, mais aussi en appelant autant de clubs pro La Porte que de clubs pro Grill. Donc, on a fait les choses bien. Donc les résultats seront dans l'édition de demain. Au total, on a appelé 158 clubs et il apparaît qu'à 53% demandent la démission de Bernard Laporte contre 35% seulement qui veulent qu'il reste en poste. On a aussi un certain taux d'abstention. Donc voilà, on constate quand même qu'il y a une majorité de clubs amateurs qui demandent aujourd'hui un départ, une démission de Bernard Laporte.
Emmanuel, la morale, droit, qu'est-ce que tu en penses, toi?
C'est sûr qu'il y a le juridique et puis il y a l'éthique. Donc, d'un point de vue juridique, quand on voit une condamnation telle, même si Bernard a fait appel et qu'il peut rester président, je crois que d'un point de vue éthique, vu la montée et le grondement qui est en train de se produire, de la part de toutes les instances autour du rugby, quand on prend les valeurs d'éthique dans ce sport, je vois mal comment Bernard pourrait rester à la président de la fédération. Donc, je pense que ça va se décanter dans les heures ou les jours à venir. Ce qui est sûr, c'est que ça fait quand même, ça donne une très mauvaise image du rugby hein, en général, et surtout à 10 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde en France, c'est un peu dommage, hein, quand on a vu tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, d'accueillir un tel événement, ça aurait pu, je pense, mieux se passer. Donc c'est un peu dommage quand même pour l'image de notre sport.
Arnaud, est-ce que concrètement, est-ce qu'il y a des instances, est-ce qu'il y a quelque instance qui soit qui ait un pouvoir de contraindre Bernard Laporte à démissionner ou à l'organisation de nouvelles élections? Ou est-ce que toutes ces prises de parole qu'on parlait du ministère, on parle de la LNR, est-ce que ça c'est des paroles finalement, c'est une prise de position qui n'a aucun pouvoir? Ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver et on peut contraindre Bernard Laporte à devoir, c'est pas lui qui doit, c'est l'élection du comité directeur, tu nous disais, mais mm-hmm. Est-ce qu'il y a un moment où il peut y avoir une contrainte?
Oui, il y a plusieurs scénarios possibles. Hein. Le premier, c'est d'abord une démission du comité directeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fédération, elle est dirigée par le comité directeur. Le comité directeur est composé de 40 membres et pour pouvoir valablement piloter la fédération pour pouvoir voter les différentes réformes, la gestion du quotidien, il faut un quorum. Ce quorum, il est situé à 20 membres. Aujourd'hui, il y a déjà deux membres qui ont démissionné, mais qui sont absolument pas, cette démission ne sont pas en lien avec l'affaire Laporte-Altrade. C'est Papé et José Machado qui avaient quitté le comité directeur. Donc, en gros, aujourd'hui, il faudrait 18 démissions au sein des 38 personnes, des 38 membres restants au sein de ce comité directeur. Ça amènerait de facto de nouvelles élections. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement le comité d'éthique qui s'empare de l'affaire, qui demande au conseil de discipline d'instruire un dossier et qui pourrait révoquer l'ensemble du comité directeur, y compris son président, comme je le disais en préambule. Voilà les deux possibilités. Ensuite, il y a la démission de Bernard Laporte. Bernard Laporte peut démissionner de son fait naturellement. Sauf qu'on n'en repassera pas par une élection au sein du comité directeur. Et ça, c'est ce que l'opposition n'aimerait... en tout cas, l'opposition n'aimerait pas ce scénario-là. Pourquoi ? Parce que...
La cohabitation.
Ce serait une espèce de cohabitation qui serait mise en place. C'est-à-dire que le comité directeur resterait en place et un nouveau président serait élu au sein du bureau fédéral, qui est encore une autre instance. C'est, je crois qu'ils sont 9 au sein de ce bureau fédéral, avec notamment le vice-président Serge Chimon, avec le trésorier Alexandre Martinez, avec le secrétaire général Christian Dulin. Bref, en tout cas, le futur président, si c'est une démission pure et simple de Bernard Laporte, serait désigné au sein de ce bureau fédéral et serait donc mis en place une espèce de… en tout cas, pendant 6-8 mois, jusqu'à la prochaine Assemblée générale, un nouveau… ou là où seraient organisées de nouvelles élections. Donc, voilà les différents scénarios. Aujourd'hui, dire quel est le scénario le plus probable à se dessiner dans les semaines à venir, très sincèrement, je ne saurais pas vous dire.
Mais sans l'organisation de nouvelles élections, finalement, c'est un membre du bureau fédéral qui pourrait être nommé à la place de Bernard Laporte. Tu parlais de Serge Chimon, qui est un proche de Bernard Laporte, qui a été blanchi sur cette condamnation. Évidemment, tout ça, c'est des si, on spécule, ça n'a aucun pouvoir, voilà, mais ça pourrait être une des solutions, concrètement.
C'est évidemment que voilà, Serge Chimon, qui a été blanchi, pourrait évidemment assurer l'intérim si demain Bernard Laporte venait à démissionner. C'est peut-être même une hypothèse envisagée dans le camp de Bernard Laporte.
On suivra ça en tout cas avec grand intérêt. Pour rappel, les élections, les prochaines élections, hein, c'est pas avant 2024, donc après l'organisation de la Coupe du Monde de l'automne 2023. Donc évidemment, il y a un vrai enjeu à remettre entre guillemets la maison du rugby dans l'ordre avant cette échéance ô combien importante. La Coupe d'Europe fait son retour ce week-end. Le week-end dernier, on a vu pas mal de belles affiches, hein, notamment Toulouse et La Rochelle qui se sont imposées, et les provinces sud-africaines qu'on attendait tambour battant, notamment les Stormers qui ont perdu à Clermont 24-14. Est-ce que ça a un peu rebattu les cartes, messieurs, dans vos pronostics au cours de cette Coupe d'Europe ? Moi, j'ai quand même l'impression que Toulouse et La Rochelle sont toujours parmi les favoris.
Emmanuel. Ils sont toujours présents, ouais, bien sûr. On avait peur un peu de… Après, c'est une première journée. On avait peur des Sud-Africains. Bon, les Sud-Africains, quand même, ils ont été présents. Hein. On voit qu'ils ne sont pas venus faire de la figuration. Il manquait aussi de rythme. On a vu La Rochelle et Toulouse vraiment très bien rentrer dans cette compétition. Donc oui, après, c'est fidèle au pronostic qu'on avait un peu engagé la semaine dernière, à savoir Toulouse et La Rochelle qui allaient être présents, le Racing qui a été un peu moins présent que ce qu'on pensait, face à peut-être aussi la plus belle équipe d'Europe. Voilà, et puis les Sud-Africains costauds et les Anglais un peu en dedans aussi. Donc pour l'instant, ça reste assez fidèle à ce qu'on pensait, mais ce n'est qu'une première journée. Donc, on attend de voir avec appétit la suite des événements. Mais c'est bien, en tout cas, que La Rochelle et Toulouse soient bien rentrés dans cette compétition. Notamment en Toulouse, qui avait fort à faire pour aller s'imposer au Munster dans des conditions compliquées. Ils ont été quand même très, très solides défensivement, notamment. Donc, voilà, c'est de bon augure pour cette compétition.
Toulouse qui a gagné 18-13 au Munster. La Rochelle qui, dans le même temps, a gagné 46-12 contre Northampton. Et puis oui, tu parlais du Racing qui s'est incliné à domicile 42-10 hein, face au grand Leinster. Donc ça, c'est aussi pas forcément une énorme surprise, même si bon, perdre à domicile de 40 points quand même, c'est
ah ouais, 40 points à domicile, ouais. En regardant le match, ça allait vraiment que dans un sens. Le Leinster a vraiment fait forte impression. Je ne m'attendais franchement pas, surtout qu'on connaît, le Racing, c'est une équipe qui a d'énormes ambitions en Coupe d'Europe. C'est une équipe qui adore la Coupe d'Europe. Je pense que ça leur a donné quand même un sacré coup sur la tête.
Arnaud ?
Ouais, mais en fait, alors oui, le fait que La Rochelle et Toulouse aient frappé fort d'entrée, c'est pas super surprenant. On sait que en plus avec cette formule qui est quand même totalement alambiquée mais qui ne permet aucune erreur, il faut frapper fort et vite dans cette phase de poule. Maintenant, je trouve que cette phase de poule, elle est assez peu représentative de ce que sont les équipes au printemps. J'aurais bien aimé avoir l'avis d'Imanol, c'est-à-dire que le niveau aperçu là, début décembre et au mois de janvier, est rarement celui qu'on voit, notamment de celles qu'on retrouve au printemps. Enfin, je ne sais pas quel souvenir t'en gardes, Emmanuel, quand tu jouais, mais j'ai quand même l'impression qu'on fait un peu le... Je n'allais pas dire le minimum, mais c'est... Voilà,
suivant l'objectif principal et les priorités du club, voilà, il y a des phases de préparation, notamment de fraîcheur physique, qui sont mises en place pour aborder des compétitions ou d'autres. Donc voilà, clairement, je pense pour, par exemple pour Toulouse, La Rochelle et le Racing, ils avaient quand même fixé et mis en ligne de mire à cette première journée. Mais ce n'est pas la période de la saison où on est le plus en forme. En général, voilà, c'est plutôt au printemps, sur la deuxième phase là, que les équipes accélèrent et sont au top de leur potentiel. Mais c'est pareil aussi pour les autres équipes. Je pense que les Sud-Africains, ils n'étaient vraiment pas dans le rythme sur cette première journée. Après, bon, les Irlandais, eux, ils sont toujours prêts. Donc, pas étonnant que... Pour revenir sur le Leinster, c'est pas étonnant. Hein, la seule équipe qui les a contrariés l'année dernière, c'est la Rochelle. Ils leur ont fait la guerre. Mmh. Et même sur la finale, ils ont pris quand même des vagues, les Rochelais. Mais bon, voilà... La barre a bien tenu, ils ont pris des vagues, mais la barre a bien tenu et c'est les seuls qui ont réussi à les battre parce que dès qu'ils commencent à mettre leur jeu en place, à avoir des libérations de balles rapides, ils sont inarrêtables.
Et pour compléter, il faut aussi rappeler que cette Coupe d'Europe, ce premier épisode européen, il arrive pas comme un cheveu sur la soupe, mais il faut aussi rappeler qu'il y a plein d'équipes de top 14 qui sous-performent actuellement dans le championnat français et qui ne savaient pas trop comment se positionner par rapport à cette Coupe d'Europe, notamment l'UBB qui est à la traîne en top 14 et qui était assez partagé entre le fait de jouer cette Coupe d'Europe à fond, même s'ils disent le contraire, bien sûr, mais ils ne savaient pas trop comment se passer et ils se dirigeaient vers une victoire à l'extérieur. Au final, ils ont perdu, j'étais au match, ils ont perdu, certes avec le bonus, mais ça... C'est aussi une compétition qui arrive à un moment où certaines de nos formations de top 14 sont un peu en difficulté. C'était le cas encore pour Montpellier il y a quelques semaines, même si depuis leur situation s'est nettement améliorée. Et oui, je pense que les cas comme Toulouse et La Rochelle, bon, ils ont fait de cette compétition une priorité. Donc pour eux, la question ne se posait pas, mais cet épisode européen n'est pas facile à aborder.
On est d'accord, on suivra ça, messieurs, ce week-end. L'UBB qui reçoit les Sharks dès vendredi soir à 21h. Et puis pour parler du stade Rochelet qui se déplace en Ulster samedi à 18h30. Le stade toulousain dimanche qui reçoit les Sharks. Et puis le Racing qui n'aura pas le droit à l'erreur hein, face aux Harlequins à 18h30. Il faudra aller faire un résultat là-bas. Ça sera pas chose aisée, mais on suivra ça avec attention, messieurs. On passe au troisième sujet, on va parler du Boxing Day, si vous le voulez bien. Pour ou contre le Boxing Day, messieurs, c'est la question qu'on va se poser désormais. Alors, le Boxing Day dans le top 14, cette saison, un match de championnat qui aura lieu le 24 décembre, un autre match qui aura lieu le 31, à chaque fois, bah, évidemment, des dates clés. Hein. Le 24, c'est le réveillon de Noël. Le 31, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre. Au Midi Olympique, vous avez fait un sondage dans le magazine. 103 joueurs ont été interrogés. 76% sont contre jouer le 24. C'est quand même un chiffre important à l'heure où on aimerait prendre un peu l'avis des uns et des autres. Là, on ne prend pas du tout en compte l'avis des joueurs. Quand on voit que trois quarts des joueurs sont contre jouer le 24, à quoi bon, messieurs? Pourquoi avoir décidé de jouer le 24 décembre? Vous comprenez cette décision? T'aurais bien aimé, Emmanuel, toi, jouer le 24 à 15h?
Nous, on ne nous demandait pas si on voulait jouer le 24. On disait il faut jouer le 24, donc on jouait le 24, on ne se posait pas de questions.
Non, mais t'as jamais joué un 24 décembre, Emmanuel? Jamais.
Ça faisait... Bon,
non, jamais. C'est la première fois.
Ouais, mais après, on a joué des 2 janvier, des 3 janvier, des 31.
Non, mais un 24 décembre, tu ne l'as jamais fait?
Non, un 24, non, je ne pense pas. Non, 23, jamais. Peut-être.
Ouais, 23, et si on t'avait demandé ton avis?
Bah, honnêtement, après, bah, je parle pour moi. Moi, j'aurais joué. Il n'y a pas de... C'est comme ça. Après, le problème, c'est que c'est pas les joueurs qui décident, c'est la télé. Donc, voilà, c'est pour faire de l'audience. Et je pense que les joueurs, oui, ils préféraient peut-être à des périodes comme ça, quand on connaît l'importance de la famille dans notre sport, quand ça serait important de passer un peu de temps en famille. Mais on jouait pas le, comme tu dis, on n'a peut-être pas joué un 24, mais à cette époque-là, je me souviens qu'on a même joué des matchs en semaine. On a même joué parfois trois matchs entre, je vais pas dire entre Noël le premier de l'an, mais pas loin. Donc, on nous a rajouté. Nous, le problème, c'était plutôt ça à l'époque. C'était pas de savoir si on allait jouer le 24 ou le 26 ou le 31. C'était plutôt, si on nous avait posé la question, ça aurait été de peut-être pas jouer en semaine parce que nous, on avait des matchs, vu le calendrier, on rajoutait des matchs genre le mercredi. Donc, tu avais trois jours pour récupérer. Il fallait remonter sur le ring. C'était vraiment une aberration. Là, pour le coup, je me serais prononcé. Ouais. J'aurais dit non, si on peut ne pas jouer, ça ne servait à rien. Puis, t'avais pas envie de jouer, quoi. Trois jours après avoir fait un combat. Il faut un peu se régénérer. Donc là, un 24, c'est bien quand tu joues à domicile, quoi, on va dire. Parce que voilà, quand tu joues à domicile, derrière, après le match, bon, tu peux rejoindre ta famille et puis passer le 25. Quand tu joues à l'extérieur, déjà, ça veut dire que tu rentres le 25, donc tu ne fais pas Noël, quoi. Donc ça, pour moi, ouais, c'est un peu ridicule. Enfin, je pense qu'on a les moyens de trouver d'autres fenêtres pour que les joueurs puissent profiter de Noël.
Un peu regrettable, c'est qu'on appelle ça le Boxing Day, mais historiquement, le Boxing Day, en Angleterre, il joue le 26 décembre.
Exactement.
Donc, en fait, on a une espèce de détournement commercial pour en faire un super événement français. D'abord, je vais peut-être passer pour un vieux con, mais je vois pas pourquoi on appelle ça le Boxing Day, quoi. Je veux dire, la langue française est suffisamment riche.
On a déjà eu un débat là-dessus, me semble.
il me semble avoir tenu exactement les mêmes propos l'an dernier, ce qui tente à prouver que je ne change pas mon propos, mais je pense que voilà, le Boxing Day, qu'on laisse ça aux anglo-saxons. Et
les matchs de Noël.
On trouve une autre appellation et peut-être une autre formule qui convienne mieux à la culture française.
Mais après, messieurs, allez voir un match, je pense, au Racing Stade Français du 24 à 15h le samedi après-midi avec son fils. Ça peut être une bonne idée avant le soir d'aller manger la dinde, d'aller faire voir un match à la Défense Arena. Oui. Moi, je trouve que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, non?
Alors, pour le 24, je suis d'accord avec toi, Adrien. Mais alors, je vais vous donner les affiches du 31. Je peux te dire qu'il y en a pas mal qui vont passer leur réveillon de la Saint-Sylvestre sur une aire d'autoroute, hein, parce qu'on a un Bayonne-Toulon, on a un Clermont-Stade Toulousain. On a un Castres Racing, on a un USAP La Rochelle, Stade Français Pau et Bordeaux-Montpellier. À part le petit derby que je vois, c'est Lyon-Brive, et encore, ce n'est pas un derby. Excusez-moi, mais je pense qu'on ne pouvait pas faire plus loin que ça en termes de déplacement, quoi.
Donc, ils font une bonne troisième mi-temps. Ils font une bonne troisième mi-temps tous ensemble.
Ouais, voilà. Je plains les bus.
On prend le chariot du Père Noël pour rentrer plus vite.
Emmanuel a raison, c'est que le poids du diffuseur est extrêmement lourd, hein, dans cette décision de jouer à ces dates-là. Et encore que je crois savoir que le diffuseur a accepté cette proposition de la Ligue, sachant que le diffuseur aurait préféré pouvoir jouer peut-être le 25 et le 1er janvier pour vraiment coller au plus près à cette appellation de Boxing Day. On en a fait écho d'ailleurs sous la plume de Marc Duzan dans les colonnes du Middle Mag. Canal+ n'est pas forcément ravi de cette programmation. En fait, c'est ça qui est assez terrible, c'est que finalement, on a un peu l'impression que personne n'est vraiment content de cette programmation. Et
ça n'arrange personne.
Voilà, ça n'arrange strictement personne. Ni même les journalistes, je tiens à le préciser.
Ah, et voilà, voilà.
Soyons honnêtes.
Parce que nous, on n'est pas payés par la télé non plus. Pas non. Comme les journalistes.
Bah écoute,
les joueurs, pardon.
En tout cas, moi, je me place du point de vue du père de famille, tu vois. Je me dis qu'aller voir un petit match avant de réveillonner le 24 ou le 31, ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Et voilà, c'est un moment où tu peux facilement emmener la famille voir un match. Et
ça peut mais toi, t'aimes pas tes enfants, c'est pas possible.
Et pourquoi? Ils aiment bien avoir un match de jeu.
Bah, je sais pas, le 24 au soir, tes enfants, ils rêvent pas d'être au coin de la cheminée, là, à ouvrir, à jouer des. Enfin, je sais pas.
C'est à 15h, le match est à 15h au Racing, regarde, c'est sympa.
Ah, le Père Noël n'est pas encore
passé. Il fera 20 degrés en plus dans l'aréna, là, tranquille. Ils mettront de la neige artificielle pour faire style. Là, très bien.
Exactement.
Bon, après, c'est le calendrier qui s'y prêtait aussi, je pense. Voilà, ça tombe un samedi, ça. Ça sera certainement pas le cas là, chaque année. Mais, quoi.
Rappelons qu'il n'y a qu'un seul match, hein, d'ailleurs, qui se joue le 24 décembre, c'est le derby parisien. Les autres se jouent le 22 et le 23. Hein. Il n'y a qu'un seul match. Pareil, la programmation, elle est quand même assez, Toute la journée de top 14 va s'étaler sur 3 jours. Ça va démarrer le 22, ça va se finir le 24.
C'est bon, surtout le vendredi soir.
Ce sera un dimanche l'année prochaine, donc ça risque de faire rebelote.
On y reviendra, on verra ce qui se dit à ce moment-là, effectivement. On ferait un sondage au middle pour savoir si la position des joueurs a évolué sur le sujet.
Et je redirais que Boxing Day, ça ne me convient pas.
Exactement. Évidemment, Emmanuel. Ce que tu veux. Merci, messieurs. Pour cette émission, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire et puis vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci messieurs, à très vite et Emmanuel, bonnes vacances.
Merci, mais je serai là la semaine prochaine.
Bien sûr, mais tu es toujours là avec nous de toute façon. Allez, salut,
on pourrait peut-être tourner le 24 décembre d'ailleurs.
À 18h, en débrief du match du Racing.
Avec Adrien en direct à l'Arena. Voilà.
Exactement. Allez, salut les gars.
Un bon père de famille.
Salut. Ciao. Salut.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.